Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », présentée chaque mercredi par l'association Palestine 13, antenne départementale de l'association France-Palestine Solidarité. Et je suis Vincent. Merci à Sidi qui assure la technique. Après qu'Israël et Trump ont déclenché une nouvelle guerre en bombardant l'Iran, il nous a semblé utile de faire un point sur deux ou trois choses indispensables à la paix entre les peuples et à leur cohabitation pacifique, en décadrant exceptionnellement notre focus et en l'élargissant au Moyen-Orient. Obama et Biden ont toujours dit non à Netanyahou lorsqu'il leur a demandé de bombarder l'Iran. Trump a dit oui. Mais force est de constater que les buts de guerre du président américain sont mal définis, voire inexistants, si ce n'est affirmer la toute-puissance de l'Amérique. Après plus de deux semaines de bombardement, la République islamique n'a pas capitulé, comme le lui demandait le président Trump. Conclusion provisoire, la démocratie n'a jamais été exportée par des largages de bombes. C'est même le contraire, car ces bombes doivent permettre de ressouder provisoirement le peuple iranien. Enfin, il faut le redire, le grand perdant est encore une fois le droit international, essentiellement bafoué jour après jour par les massacres génocidaires perpétrés à Gaza par Israël, qui continue avec une énième guerre préventive, visant cette fois, après Gaza, l'Iran, mais également le Liban, qui reçoit des tracts tombés du ciel, appelant les Libanais à quitter leur quartier parce qu'il va être bombardé, donc détruit. Il nous a semblé indispensable de traiter le sujet de l'explosion du droit international qui contamine la vie politique française. Retailleau et son idée que le droit n'est pas immuable, ou Gabriel Attal déclarant « le droit international ne prime plus ». C'est un fait. La force règne, on peut le regretter et le subir, ou voir le réel et s'y adapter. Il faut donc acter le droit de la puissance. Fin de citation. Nous vivons des moments extrêmement inquiétants en entendant cet argumentaire d'enterrement du droit international, pourtant élaboré après les horreurs nazies de la Seconde Guerre mondiale. Pour contrebalancer ce négationnisme, nous avons sélectionné un entretien intitulé « Une guerre barbare et suicidaire, Trump prend le monde en otage », dans lequel Denis Robert, directeur du média Blast, reçoit, pour ce zoom arrière, Olivier Berruyer, le fondateur et directeur de la rédaction d'Elucide. Suite à la parution dans ce média d'une enquête longue, fouillée et dissonante sur la guerre suicidaire menée par Trump et Netanyahou en Iran et au Liban. La parole à Denis Robert et Olivier Berruyer.
J'avais vu deux, trois fois passer sur des chaînes d'information des gens qui étaient tranquillement en train de dire « Eh, ce qu'il faudrait quand même le tuer, Khamenei. » J'étais là, enfin, j'ai aucun problème à ce qu'on juge M. Khamenei pour tous les crimes qu'il a fait. Mais dire comme ça à Télébistrot, tiens, si on tuait, mais vraiment comme si c'était, tu vois, un cafard, un truc comme ça, s'il n'y a pas de conséquences, j'étais là, j'étais en l'air, mais on est devenu quoi? Ça passe à la télé, ça, sans problème.
Moi, je suis ravi que les Israéliens et les Américains tapent, tapent et tapent encore sur l'Iran.
ça fait 40-50 ans qu'ils pensent à faire la guerre à l'Iran. À chaque fois, les types leur ont dit faites pas ça, ils vont détruire l'étroit d'Hormuz, ils vont bombarder tous les pays à côté, toutes les installations pétrolières, ça va très très mal se finir. Qu'est-ce que vous voulez aller faire une guerre à l'autre bout de la planète sur un territoire aussi peuplé?
We're gonna make a ton of money. Nobody will threaten the Straits of Hormuz again.
Il y a des conséquences à tout ça. Parce que là, tu t'es pas attaqué, je répète, à des petits bédouins avec des chèvres. Hein. Tu t'es attaqué au pays qui est peut-être le plus vieux du monde. Et on va enfin se rendre compte que la guerre, ça a des conséquences. Et les types, depuis 2-3 jours, je commence à les voir atterrir. Je commence à dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va devenir?
Olivier Berruyer, écoute, c'est un rendez-vous qui est, je sais pas, annuel. Ça fait combien de temps qu'on s'est vu hier?
Oui, à peu près, oui. À peu près.
Donc, je te présente rapidement. Tu es le fondateur et le directeur de la rédaction d'un site qui s'appelle Elucide, qui est un site sur abonnement, qui produit beaucoup de graphiques, d'analyses, on va dire, géostratégiques. Enfin, tu,
et c'est. Et économique, beaucoup aussi.
Économique, que je suis assez régulièrement. Et j'ai eu envie de t'inviter, je suis ravi que tu sois face à moi, parce que j'ai lu l'article que tu as co-signé avec Carla Constantini,
qui est notre rédactrice en chef,
que j'avais invité aussi, mais qui est en vacances. On lui souhaite de bonnes vacances. Elle l'a mérité parce que vous avez fait un excellent papier. Je dis ça, c'est pas du tout de la flagornerie, mais en te lisant, et en lisant en tout cas votre papier, qui est quand même assez long, qui fait une trentaine de feuillets, on va dire, j'ai appris des choses. C'est une parole qui est dissonante par rapport à au discours médiatique autour. On parle évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Iran et maintenant au Liban. Et c'est pour ça que tu amènes des informations, un point de vue qui est assez différent, mais qui est toujours très argumenté, puisqu'en fait, avant d'être le directeur d'Elucide, tu étais ingénieur statisticien. Donc, ce qui t'intéresse, c'est les faits. Et il y a des choses que tu remarques, par exemple. Je sais pas, des fois, on s'envoie des messages. Tu me dis, tiens, là, le Bangladesh a plus d'essence. C'est un effet immédiat. C'est le premier pays qui a morflé après ce qui s'est passé au détroit d'Hormuz, etc. Votre papier s'appelle... Je vais commencer par lire votre chapeau, mais le papier, pour que les gens comprennent, s'appelle « Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire ». Donc, tu utilises ce mot de barbarie. Et donc votre accroche, c'est « Alors, nous y voilà ». C'est le plongeon fatal dans l'abîme que les puissances occidentales ont obstinément creusé au fil des dernières décennies. Le cap de la barbarie est définitivement franchi avec l'insouciance meurtrière de ceux qui ne comprennent pas bien le chaos historique qui se prépare. L'ancien ordre qui faisait le pari du droit contre la force brute vient brutalement d'achever de s'effondrer sous nos yeux en 2026. Cette nouvelle guerre est celle de trop. Par son ampleur et par sa nature, elle annonce un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales. Donc, tu mets le paquet très vite, vous utilisez des mots assez forts, et auxquels d'ailleurs, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, enfin, je suis en accord total avec ce que tu dis, mais j'ai pas l'argumentation que tu as. Mais je voudrais savoir, toi qui observes ces choses-là, quand tu as vu ce qui arrivait, cette déflagration au Moyen-Orient, l'envahissement de l'Iran, les bombes, etc. Comment tu as réagi et quelle a été ta lecture, surtout dans les 24 heures qui ont suivi, de ce que les médias en ont dit? Est-ce que tu as vu une dissonance entre ce que tu entrevoyais, ce que tu étais en train de comprendre et ce qui était raconté?
Bah, déjà, merci pour l'invitation et pour cette présentation qui fait plaisir, parce qu'en effet, on a beaucoup, beaucoup travaillé, et depuis 10 jours, mais d'ailleurs, depuis la guerre des 12 jours, on a très bien vu que ce qui s'était passé, déjà, la première attaque contre l'Iran allait forcément entraîner des répliques, il y aurait sûrement une suite. Donc ça fait effectivement plusieurs trimestres qu'on travaille, qu'on écoute, qu'on lit, qu'on regarde les spécialistes. Je dirais déjà, pour répondre à ton interrogation, évidemment, il y a eu un effet de stupéfaction, non pas tant dans le conflit, mais dans la façon dont le conflit démarre, qui était tout à fait, à mon sens, inattendu. Alors, ça fait un moment qu'on voit une dégradation extrêmement forte de plein de choses, hein, évidemment, de l'ordre international, du système, je dirais, médiatique chez nous, enfin surtout audiovisuel, hein, je veux quand même faire la différence entre la presse et le reste, qui annonçait des choses pour moi qui était grave, ça va mal finir. On ne peut pas laisser des États voyous se développer comme Israël.
C'est-à-dire qu'au-delà du droit, la petite musique qu'on a entendue, c'est que c'était pas vraiment une guerre, mais ça allait s'arrêter très vite. C'était que le peuple iranien, dans sa grande majorité, voulait le départ des mollahs, que la rue allait se révolter, ça durerait une semaine et tout serait réglé.
Ça c'est un des points, mais il faut toujours voir dans quoi on se place. Le sujet, c'est pas qu'un sujet de droit. Quand on regarde le passé, hein, il y a eu des sujets que ce qui se passe à Gaza, c'est pas un sujet de droit pour les gens qui sont là-bas. Le président des États-Unis vous dit tiens, je vais piquer le Groenland, tiens, je vais piquer le Canada, tiens, il y a des choses pas normales qui se passent, et on se dit que bah, forcément, ce genre de truc qui n'est jamais arrêté. On sait très bien, quand on n'arrête pas ça dans l'histoire, ça va de pire en pire. Je me disais, ça va mal tourner, un de ces quatre. J'avoue, je n'attendais pas à une erreur stratégique de ce niveau-là, enfin, qui va vraiment rester dans les annales pour pas mal de décennies, et qui est la continuation d'un système qui n'est pas récent. Tu l'as vu comme moi depuis 25 ans, 30 ans, où on a des conflits de plus en plus réguliers. Ça commence par l'Afghanistan, où on envoie les gens mourir pour au final remplacer les talibans par les talibans, puis la guerre d'Irak bâtie sur un mensonge, mais encore, c'était une guerre déclarée, alors certes bâtie sur un mensonge crédible, mais qui derrière déchaîne le malheur sur le Moyen-Orient, 500 000 à 1 million de morts quand même en Irak dans les conséquences, au final George Bush, Tony Blair sont toujours en liberté, c'est un problème, puis on attaque la Libye, on détruit le pays, évidemment l'instigation forte de Bernard-Henri Lévy, qui est toujours dans une mouise depuis 2012 quand même, hein, assez incroyable. Puis la Syrie, où certes, on enlève le tyran Bachar al-Assad, c'est très bien, mais on le remplace par l'ancien leader de Al-Qaïda et Daesh, qui était recherché par les États-Unis, c'est pas un gros plus. Et évidemment, bah, quand tu crantes ce genre d'intervention, tu arrives à ce qui se passe là. Mais ce qui se passe là, et ce qui est très intéressant, c'est ce qui nous a alerté, c'est le changement de nature, de paradigme qu'il y a derrière. Et quand on a vu la situation, moi, si tu veux, j'ai trois choses qui sont vraiment venues au visage, que tu as un peu dites. Un, c'est le côté la barbarie, la nouvelle barbarie ordinaire, acceptée, légitimée, alors qu'on a une violation, oui, barbare du droit international et de tous ces fondements.
La barbarie, on venait de la voir à Gaza, enfin, c'est la continuité.
Bien sûr, mais ça crante. Il y a quelque chose qui est cranté, en fait, au niveau du droit international. Bien sûr qu'il y a déjà eu un début, c'est la continuation de la barbarie, mais on voit que c'est de plus en plus... Alors, ça dépend comment on regarde. C'est grave, évidemment, que ce ne sera jamais aussi grave que le génocide qu'il y a eu à Gaza. On est bien d'accord. Mais au niveau du droit international, de ce qui se passe, des conséquences qu'on a pour nous, de la folie de la chose, parce qu'à la rigueur, Gaza, c'est Israël. Là, c'est plus Israël, c'est Israël. Plus
Israël avec les avions américains, les bombes américaines.
Oui, mais là, je veux dire, ils sont tous les deux main dans la main pour le truc.
Je sais que tu as trois points à développer, mais je voudrais, sur cette histoire de barbarie,
bien sûr,
comme on avait parlé de Trump quand tu étais venu à Blast il y a un an, et tu avais une sorte de vision de l'homme qui était, je ne sais plus, il y avait une sorte d'irrationalité, que c'était, parce que certains disaient que c'était un stratège et qu'il y avait une forme d'intelligence chez lui. Toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, il y avait un débat autour de ça. Quand tu vois ce qui s'est passé depuis un an avec lui, et surtout l'histoire que les médias qu'on peut lire un peu partout, y compris dans la presse américaine, qui est le rôle dévastateur et très influenceur de Netanyahou sur lui, et lui qui, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que lui, finalement, il y va parce que c'est, tu vois, le mec est impatient, il est une sorte de, il écoute que lui-même, il est sous l'influence de Netanyahou, et il fonce et il se rend pas compte de ce qu'il fait. Voilà un peu ce qu'il nous est dit. Ouais. Est-ce que ta vision de ce synopsis rapide, est-ce que tu la partages et sur le fonctionnement de Trump, est-ce que ça a évolué pour toi?
Ça c'est, j'avais quelques interrogations là-dedans sur Trump
parce que la barbarie, c'est quand même Netanyahou et lui, quoi.
Bien sûr, mais c'est intéressant aussi de voir où elle vient, dans quoi elle s'inscrit, j'insiste sur cette barbarie, mais au niveau du droit aussi international, c'est-à-dire de la destruction des conditions de la paix. C'est ça, en fait, le truc. C'est encore un cran supérieur. Si tu regardes, parce que je trouve que ça s'observe très bien, parce que tu me parles, comment Trump agit alors vis-à-vis de l'Iran depuis quelque temps? On peut très rapidement rappeler ce qui s'est passé au niveau des négociations avec l'Iran. On va pas faire trois heures, mais... L'Iran avait commencé à essayer de créer du matériel pour faire des bombes nucléaires sans préparer ce qu'il faut pour faire une bombe nucléaire. Mais il était en train d'accumuler du combustible. Et finalement, ça plaisait pas. Les États-Unis leur ont mis des sanctions au début des années 2010. En 2015, on a trouvé un accord entre les États-Unis et les Européens et l'Iran. L'Iran arrêtait d'enrichir
son combustible,
et en échange, on enlevait les sanctions. Ça a plutôt bien marché pendant 3 ans. Puis est arrivé Trump. Alors c'est vrai que Trump, je te rassure, on n'ira plus jamais que c'est un stratège. Là, ça paraît évident. Cette hypothèse est vraiment terminée. Et que fait Trump? Il se retire de l'accord qui marchait bien, il était respecté par l'Iran. Finalement, on avait trouvé enfin une façon de résoudre ce problème. Il se retire de l'Iran. Pardon, il se retire de l'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il remet des sanctions, mais l'Iran, il est toujours tenu par l'accord qui en plus a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU vis-à-vis des Européens. L'accord reste. Et donc, l'Iran se retrouve à devoir, en théorie, ne pas enrichir son uranium, mais à avoir les sanctions américaines qu'il voulait éviter. Donc, les Iraniens commencent à se dire, bon, on se moque de nous là-dedans. Et qu'ont fait les Européens? Rien. Alors qu'évidemment, les Européens ayant signé cet accord, ils auraient dû sanctionner les États-Unis ou compenser les sanctions des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, qui lui respectait sa parole. Ça n'a pas été fait. On connaît nos leaders européens. Première étape. Deuxième étape, on arrive assez rapidement en 2025. Des négociations recommencent entre les Américains et les Iraniens. Elles avancent un peu, pas beaucoup. Et au bout d'un moment, sans prévenir, qu'est-ce qu'ils font? C'est le début de la guerre des 12 jours. Ils se mettent à bombarder les sites de stockage de l'uranium, les usines, enfin, qui sont quand même très enterrées, sans prévenir. Donc déjà, il y a une guerre qui commence sans déclaration de guerre, pendant les négociations, qui s'achève au bout de 12 jours, on se rappelle comment, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a des missiles qui commencent à partir, et puis les Israéliens finissent par dire « stop, on arrête ». À ce moment-là, on arrête la guerre. Heureusement, ce n'était pas allé très loin, puisqu'en fait, ils n'ont sûrement pas détruit grand-chose dans les bombardements. Et les négociations reprennent début, enfin en tout cas au cours de l'année 2025.
Tu penses que ça c'était quelque chose de calculé de la part de Netanyahou? C'était une... Pourquoi, à quoi ça servait cette espèce d'avertissement guerrier?
Vous savez, ça comprend Netanyahou, ça va demander aussi on est face à un gouvernement israélien dont la moitié des représentants vivent au 5e siècle avant Jésus-Christ dans leur tête, en fait. Alors c'est ça qui se passe aussi, hein. C'est très compliqué quand ils se mettent à citer la Bible, Amalek, etc., etc.
Zachor et asher asa lecha Amalek. Anachu zochrim.
Alors oui, ça fait, de toute façon, ça n'est pas caché, Netanyahou, il a toujours dit, c'était son rêve depuis 40 ans d'arriver à cette guerre. J'écoutais hier Bennett, l'autre ancien premier ministre israélien, qui disait, moi, pendant 10 ans, j'ai poussé les États-Unis à un conflit comme ça contre l'Iran. Donc ils sont tous très contents, on sait très bien qu'ils sont à l'origine du truc. Pourquoi ils attaquent? Ils se sont dit, on allait détruire les usines, enfin, les sites nucléaires. A priori, ils n'ont pas détruit grand-chose.
Mais pourquoi ils s'arrêtent? C'est surtout ça, dans la phase de 2025.
Quand... Pourquoi ils s'arrêtent? Quoi? La guerre?
Pourquoi ils font une guerre éclair de quoi? De 10 jours, 12 jours? Et puis, pourquoi ils ne continuent pas?
Bah, ils ne continuent pas, parce que quand on commence à se taper une pluie de missiles tous les jours, et puis que le fameux dôme de fer, jour après jour, il s'épuise, et puis il n'y en a plus du tout à la fin, et qu'on commence à se prendre 10, 20, 30 missiles
c'est
à
la terre. C'est la réaction iranienne qui fait qu'ils se retirent.
Bah oui, ça c'est sûr, c'est pas la Libye, quoi. C'est pas un camp de bédouins, l'Iran. Il faut quand même savoir de quoi on parle. On parle d'un pays puissant au niveau industriel.
90 millions d'habitants, grand.
C'est 90 millions d'habitants, c'est 3 francs la France, ils produisent plus, enfin à peu près autant d'ingénieurs que les États-Unis. Hein, les ingénieurs là-bas, ils font pas de l'ingénierie financière ni du ChatGPT, ils font beaucoup d'armement. Donc effectivement, après, il se passe des choses. C'est la 20e puissance industrielle mondiale, corrigée du pouvoir d'achat, l'Iran. C'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau. Mais on en arrive surtout à l'étape ultime, parce qu'on voit très bien qu'en fait, on s'est déjà moqué, les États-Unis se sont moqués de l'Iran une première fois en 2018, Trump. En 2025, ça recommence, vous êtes en train de négocier, vous prenez des bombes sans prévenir, mais c'était des bombes sur des montagnes. Donc, bon, les dégâts ont été limités. On en arrive à la troisième, et c'est là où ça devient extrêmement grave, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les négociations ont repris, que ça avançait plutôt bien, que 3-4 jours avant le début de la guerre, les Iraniens avaient vraiment cédé sur beaucoup de choses, en particulier étaient d'accord pour arrêter l'enrichissement. Il y a une déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Oman qui s'occupait de faire le négociateur, qui disait « on est à deux doigts de conclure la paix ». Les négociations arrivent, à la fin de la semaine, ils se disent « allez, la semaine prochaine, on refait un round de négociations, ciao ». Et ce qu'ils font, hop, ils lancent leur attaque barbare pendant la nuit, sans prévenir, évidemment, sans déclaration de guerre, et surtout dans un cadre, parce que ça, c'est un nom en droit international, c'est-à-dire par perfidie. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit aux gens, on n'est pas d'accord, attendez-vous au pire, on s'en va en claque la porte. Non, on leur a dit, mardi prochain, hein, on continue à négocier. On comprend bien que ça pose des sérieux problèmes, après, pour négocier avec des gens comme ça. Et là, ce coup-ci, ils n'envoient plus des bombes sur des montagnes. Ils décident de s'attaquer
à l'état-major de
l'État. J'ai pas voulu employer le mot, en fait, hein, parce que ça les a pas trop YouTube derrière, mais on va dire d'enlever, de faire perdre la tête au serpent. C'est des... Alors, comme ça, on est en train de parler. Alors, je précise aussi, hein, je vais le faire une fois, j'y reviens plus. Je ne soutiens pas le régime iranien, je ne suis pas un chiite intégriste, je n'ai pas envie qu'on installe une république islamique en France. Voilà, j'essaye d'avoir des analyses froides, rationnelles. On rigole, mais c'est important, parce qu'en plus, on voit très bien qu'à chaque fois qu'on essaye de dire quelque chose de sérieux, on tombe dessus en disant « vous défendez ».
Non, mais c'est bon, tu vas, on va, on va, je dès que tu mets en cause Israël, t'es antisémite, tout ça, oui, on va évacuer
on
ça.
Le truc, voilà. Donc, non, mais on le fait une
c'est
fois
les esprits étroits, obscurs.
Oui, mais ça, c'est du valsisme. Oui. C'est essayer de comprendre, c'est déjà expliquer, être complice. Ouais, et on en arrive là à cause de cet état d'esprit. C'est pour ça qu'il est important de bien le comprendre. Donc voilà, maintenant, c'est mis de côté, c'est dit clairement. Je continue. Quand vous arrivez à cette perfidie, je dis perfidie, c'est le nom de la Convention de Genève, hein. C'est dedans, ça normalement on fait pas. Car les types, ils ont tout violé, ils ont la charte de l'ONU, ils ont violé les conventions de Genève, ils ont violé évidemment la parole donnée, et à ce niveau-là, attaquer des chefs d'État comme ça, ça pose un énorme problème que je vais vous développer, mais donc ils s'attaquent aux leaders iraniens, à des membres du gouvernement, à tout l'appareil d'État sécuritaire, les gardiens de la Révolution, l'armée, enfin vous décapitez tout, enfin, vous êtes sur un niveau qui est phénoménal. D'ailleurs, tout simple, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé ?
C'est jamais arrivé.
Quand est-ce que tu as vu ça ? Faut peut-être remonter au Moyen-Âge. Ça se faisait plutôt à la fin. Tu vois, Alexandre le Grand qui tire après.
Ou pendant la Deuxième Guerre mondiale.
À Constantinople. Moi, comme ça.
La bombe américaine à Hiroshima, non ?
Oui, mais tu n'es pas dans cette optique-là. Attention, je ne suis pas en train de mettre... une forme insensible, quand tu parlais tout à l'heure évidemment de Gaza, ou évidemment de cette tupe-là, évidemment qu'il y a plein de gens qui meurent. C'est très particulier de faire ça en termes de droit international, et on va comprendre pourquoi, de s'attaquer à la tête aux dirigeants. Parce que c'était une violation d'un certain nombre de principes fondamentaux du droit international, qui ont été mis en place, en tout cas qui ont été édictés déjà depuis, enfin déjà au temps de Rome, hein, ils réfléchissaient là-dessus à ce qu'il faut les faire. Ça a vraiment été codifié, le droit international, par Hugo Grotius. J'en parle un peu dans l'article. Oui. Vous allez avoir droit à une petite citation, je vous rassure, il n'y en aura très peu dans cet entretien, mais il faut quand même le comprendre, parce qu'il a fondé le droit international dans son bouquin qui s'appelle « Du droit de la guerre et de la paix » en 1625. C'est rigolo, ça a 400 ans, plus quelques mois. On vient de fêter l'anniversaire. Et qu'est-ce qu'il disait dedans ? C'est un diplomate néerlandais, il disait, mais il faut faire attention, comment on fait pour garder la paix, ce qui est quand même est un des buts de l'humanité. Et pour ça, il faut un minimum de confiance entre les dirigeants, même si on se déteste, même s'il y a des barbares, même si c'est compliqué. S'il n'y a pas ça, on ne va pas pouvoir maintenir la paix. C'est pour ça qu'il faut toujours se comporter, c'est ce qu'il dit, il faut toujours se comporter sans perfidie, même avec des gens perfides. Parce que sinon... C'est sa conclusion que je vous lis. L'État qui transgresse les lois de la nature et des nations coupe aussi les remparts qui protègent sa propre paix future. C'est-à-dire que sa vision, c'est si vous faites ça, si vous vous comportez comme viennent de faire les Israéliens, votre propre paix, vous ne pourrez plus l'assurer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'en ce moment, Trump, il a très bien compris qu'il a fait la boulette de sa vie. Niveau XL.
T'es sûr qu'il l'a compris,
plus,
ça
plus. Oui, on sait très bien. Ben ça, il est en train de faire passer des messages aux Iraniens en disant, bon, on pourrait négocier tout ça. Il y a Witkoff, hein, il renvoie. Le type a renvoyé le négociateur qui a dit aux Iraniens, à la semaine prochaine, pour qu'il se fasse assassiner juste après, on renégocie. Et c'est ça, c'est là où le niveau, tu vois, de barbare est extrêmement destructeur et pose un énorme problème. Parce que, regarde bien ce qui s'est passé. Il y a un nouveau guide suprême.
Le fils
du précédent. Alors, il vient d'être nommé. Les Israéliens et les Américains, ils ont tué son père. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais qui est au courant qu'ils lui ont tué sa mère aussi, dans le bombardement ? Qui est au courant qu'ils lui ont tué sa sœur, qui était aussi là-dedans ? Qui est au courant qu'ils ont tué son beau-frère ? La sœur était avec son mari. Et qui est au courant qu'ils ont tué sa nièce de 14 mois, en même temps ? C'est un petit peu gênant. Est-ce qu'on est au courant qu'ils ont tué sa femme, au nouveau aussi ? C'est-à-dire que les Israéliens ont tué la femme de l'ancien et la femme du nouveau. C'est la libération de la femme iranienne, en fait. Et il y a des sources qui semblent dire qu'ils ont tué aussi son fils au nouveau. Alors,
chef et lui-même était blessé.
Et lui-même a été, parce qu'ils ont essayé de le tuer, il a été blessé. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel état il est. Il n'est pas réapparu encore physiquement. Alors, on va se dire, oui, mais ces gens, c'est des horribles personnages. En effet, il y a des répressions colossales, blablabla, blablabla. Mais essayons, pour comprendre, de mettre ça un petit peu de côté, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cher Denis, si demain matin, je m'aperçois que, quand ça sort, votre montage ou la prise de son n'est pas terrible, je viens chez toi, et puis je tue tes deux parents, ta femme, ta sœur, ta nièce, ton beau-frère et ton fils, que tu étais dans la grange, tu arrives avec une tronçonneuse du coup un petit peu énervée, et qu'à ce moment-là, je te dis « Oh, t'es une tronçonneuse, cher Denis !» je pense que c'est le moment de faire la paix, peut-être. On pourrait peut-être faire un cessez-le-feu. Qu'en dis-tu ? Eh bien, je pense que tu ne vas pas être d'accord pour faire un cessez-le-feu dans ces conditions-là. D'autant que, en plus de cette barbarie personnelle, tu comprends très bien que les Américains ont trahi une fois, ils ont trahi deux fois, ils ont trahi trois fois dans les négociations. Tu ne vas pas renégocier un truc une quatrième fois. Quelle est la valeur de la parole américaine ? Elle n'existe plus à cause de cet acte. Donc, on est dans une situation où il ne va pas y avoir de cessez-le-feu à court terme, même si les Américains le demandent. Même si les Américains ils se barrent, comme pourrait très bien le faire Trump, demain matin en disant « Non, mais j'ai gagné, ça suffit », il peut le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que les Iraniens ils vont continuer à bombarder et que le détroit d'Hormuz ne va pas s'ouvrir, en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il faut un pays pour déclencher la guerre, mais il en faut deux pour l'arrêter. Et moi, je vois un monde stupéfiant où tout le monde se dit à la rigueur « Bon, allez, on va arrêter la guerre ». Non, vous n'arrêtez pas la guerre, parce que déjà, ils ne voudront pas. Les Iraniens, pour des raisons que j'ai évoquées, c'est pour ça que j'insiste, hein, c'est pas pour faire la morale du barbare, on l'a compris, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix. Et il va s'en rendre compte, Trump. Je précise aussi que ce que j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'on a vu, c'est pas pour faire je ne sais quel principe de droit international, c'est quelque chose qui permet de maintenir la paix. Et ce droit international est sous attaque extrêmement fort, évidemment là-dedans, comme d'autres droits sont en train d'être attaqués. On se rappelle de Retailleau qui attaquait l'État de droit, et maintenant on voit Attal qui est en train de dire que non, le droit international c'est fini, von der Leyen qui nous explique que non, c'est le monde ancien, c'est fini ça, le monde d'avant, maintenant c'est le monde comme ça, les barbares, on fait ce qu'on veut, ou peut-être Krief dans Le Parisien, c'est fini le droit international. Non, non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut se battre pour y revenir, hein, parce que ça c'est ce qu'on a bâti en 45, ils avaient bien vu ce qui s'était passé, ils ont dit il faut faire ça pour que ça recommence pas. Et si on avait fait ça, ça aurait pas recommencé. Donc non, ce droit, il faut le défendre. Mais je ferme la parenthèse, on en vient au deuxième étape, en tout cas, d'une analyse, en tout cas, qui m'a beaucoup frappé, moi. C'est en effet ce terme que tu as repris, c'est le monde imaginaire, en fait. Oui. C'est ça, pour moi, ce qui se passe, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Les gens vont commencer à le comprendre, et vous voyez au niveau des chaînes d'infos qu'on commence à bien le comprendre. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on bâtit un monde imaginaire, en fait. En particulier par l'appareil des chaînes d'information. Je répète que je sépare de la presse, mais ce qui se passe là toute la journée...
C'est la presse, hein, comme...
Non, c'est pas parfait, mais en tout cas, dans l'article, moi, je cite des trucs incroyables du New York Times sur comment Trump a pris ses décisions. Ça, moi, je peux pas vous le dire, hein, j'y étais pas.
Non, mais la presse internationale, oui, mais en France, bon à part...
C'est pas parfait, mais en tout cas, rapport à ce qui était avant un paysage audiovisuel, qui maintenant est quand même un égout audiovisuel, c'est stupéfiant. Et on voit qu'il y a, depuis très longtemps, sur plein de sujets, hein, c'est pas que ce sujet-là, une tendance à inviter des gens qui sont dans leur monde et qui créent un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'ils s'inventent une réalité. Alors là, ça va rester un truc historique, mais l'Iran, 99% des gens, ils attendent le départ des mollahs. Alors peut-être une majorité, mais en tout cas, ce n'était pas 99%. Hein. Il y a des gens là-bas qui sont extrêmement en soutien du régime. On sait très bien que c'est un régime où il y a un schisme qui est extrêmement fort et violent. Le candidat chiite le plus dur à la présidentielle, il n'a pas été élu, mais il a obtenu quand même presque 25% des voix. OK, ça fait 15-20 millions de personnes. Vous rajoutez ceux qui ont voté pour l'autre, mais qui quand même n'ont pas envie qu'il n'y ait plus de République islamique. Vous êtes peut-être à 35, 40, 50% maintenant avec les bombardements qui soutiennent le truc. Donc on voit que c'était un monde imaginaire. Mais on voit qu'on a refusé. Combien on a vu de femmes à qui on est vraiment en empathie, toutes ces femmes de la diaspora qui veulent des libertés, et on a tous envie qu'elle ait ça. Mais sauf que c'est qu'une partie de l'Iran. Moi, j'ai pas vu une seule chiite intégriste qui vient de dire, moi, je veux garder Khamenei, et puis comme vous me l'avez tué, ben, je voudrais bien que mon fils, il aille faire le martyr pour vous faire payer ça. Ça existe, c'est ça aussi l'Iran. Donc à force de me présenter, et de façon évidemment exprès, de ne pas faire ce qu'on appelle du journalisme, c'est-à-dire d'être juste un travailleur médiatique qui est là pour faire du divertissement, pour se chanter, pour faire le monde qu'on veut, le problème, c'est que comme il y a ça partout, tout le monde y croit, y compris les dirigeants. Et on se dit, c'est pas grave, ça s'est bien passé. L'Iran, les mecs avec les trucs noirs, là, ça va, quoi. Et on va envoyer trois bombes, et puis ça suffit, ils vont s'écouler. Au pire, on leur dira, une fois qu'on a tué tous leurs dirigeants, on fait la paix au plus bout de trois jours, ils vont revenir. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Un peu de trois d'Hormuz, peut-être. Ils vont quand même pas bombarder les voisins. Bon, quand tout d'un coup, ils ont détruit toutes les bases américaines, les types, il n'y a plus une base américaine au Moyen-Orient, il n'y a plus un seul radar américain au Moyen-Orient. Il reste juste une base en Turquie qui, pour le moment, n'a pas été attaquée parce que c'est quand même la Turquie. Tous les autres, tout est détruit. Les bases américaines, c'est des jeux de Lego maintenant. Alors c'est ça qu'ils ont fait, les types, en une semaine. Et ils sont énervés. Et ils sont forcément énervés.
Sans compter les drones sous-marins qui
oui, mais on va en parler, il y a plein de conséquences, mais restons bien sur ce côté médiatique. Tu l'as dit tout à l'heure un peu en rigolant, mais on nous a inventé un monde où les antiracistes, c'est des racistes. ou les antifascistes, c'est des fascistes. Ou les membres d'un parti fondé par des SS, c'est des gens super cool qui adorent les juifs. Et puis c'est rigolo, ça ne voit pas ce qu'on voit. Ou on fait des minutes de silence pour des gens qui, hélas, ont perdu la vie dans un drame absolu, mais enfin qui étaient quand même dans des défilés néo-nazis. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de minute de silence sur la travailleuse humanitaire qui est morte ce matin au Congo. Bon, c'est ça, un monde imaginaire, où on s'invente leur truc, où on s'invente un risque d'invasion musulmane. On a vu dans les années 30 où l'horrible antisémitisme, ça a donné dans les années 40. Et là, on vient de voir ce que 10 ans d'islamophobie rageuse est en train de créer en 2026. Parce que si on peut se taper un pays musulman, c'est rigolo. Il faut voir télé bistrot en permanence. Il faut voir l'interview hier d'Hervé Morin, qui est quand même ancien ministre de la Défense, type qui est tout content, qui se dit « mais moi je soutiens, il faut taper l'Iran ».
Moi je suis ravi que les Israéliens et les Américains tapent et tapent encore sur l'Iran.
C'est hallucinant, une haine permanente. Alors, je répète, le régime est peut-être trahissable, mais attends, à un moment donné, ils nous ont rien fait encore, ces gens-là. Maintenant, ils vont nous faire des trucs. Il y a une différence quand même. Ouais. Donc maintenant, effectivement, il peut y avoir des conséquences déplaisantes chez nous, qui n'ont jamais été étudiées. Moi, tu m'as dit comment tu as vécu les premières 24 heures. Mais c'était un délire total. Je me lève...
Alors, tu t'y attendais pas, tu pensais
non,
pas
qu'il... Oui, attends, à quoi?
À ce que Trump et Netanyahou attaquent comme ça.
Je me suis couché vendredi, excuse-moi, je suis informé, je savais qu'il y avait toutes les chances que le lendemain, il y ait la guerre. Alors déjà, je ne comprenais pas. J'ai dit, je ne comprends pas. Le ministre d'Aumont, la veille, a dit qu'ils avaient un accord.
Mais moi, j'y croyais pas, puisque je suivais de loin, moins assidûment que toi. Mais je pensais que la négociation allait continuer et qu'on arrivait...
Elle était parfaite. C'était à deux doigts de conclure. Alors, quand on arrête une négociation à deux doigts de conclure, ça dit beaucoup de choses quand même. Hein. Ça dit beaucoup de choses. Mais je pense que ce sera... Bah, ça veut dire que tu ne voulais pas du tout négocier, que tu voulais faire la guerre. Ça veut dire que c'est ça ce qu'il faut. Ils n'en avaient rien à faire de ces... Ils n'ont jamais voulu négocier. Du côté israélien, mais du côté américain, ils ont suivi derrière. Donc oui, moi je me suis couché vendredi, j'avais plein d'infos qui me disaient tiens, ça se trouve demain ils vont bombarder encore. Mais je me suis dit ils vont bombarder des sites. Je me suis pas dit ils vont aller tuer tout le gouvernement, tout l'appareil d'État iranien dans une folie qui, je répète, a pas d'équivalent. Hein. C'est, moi le dernier que j'ai vu c'est Constantinople quand ils ont tué toute la ville après l'avoir prise. Peut-être d'autres entre temps, je sais pas, mettez en commentaire. Moi je réfléchis, mais en tout cas dans un monde civilisé récent, j'en ai pas eu hein, ce retour. Donc voilà, cette surprise, j'arrive à stupéfait. T'allumes les chaînes d'info, ce que je fais rarement, vraiment, je pense que c'est un vrai problème. Faut pas regarder ces trucs-là. Je pense que c'est dangereux, vraiment. Parce que vous vous habituez à quelque chose de pervers, en fait. C'est insidieux, c'est comme ça. Ça vous crée vraiment cette réalité alternative.
Mais surtout, là... surtout que, enfin, moi qui l'ai fait comme toi, ce qui m'a frappé, je sais, c'est l'uniformité. C'est-à-dire, tu mets CNews, tu mets BFM, tu mets France Info, t'as la même chose, quoi. LCI, ils sont un petit peu, comme ils suivent ça tout le temps, mais le discours était quand même, en gros, hein. Pro-Trump et pro-Netanyahou, puis caricaturant l'Iran et nous expliquant que ça allait durer une semaine.
Tout à fait. Moi, j'étais à Tel Aviv, en fait. Quoi. Je regardais la télé à Tel Aviv, c'est ce que j'ai vu. Bon, après, moi, j'attends autre chose d'un système d'information français. Mais surtout, évidemment, personne ne dit rien sur cet acte. Même, je répète, même si ces gens étaient odieux, machin, mais quand même, pas un mot sur ça, il n'y a pas de problème. Puis surtout, j'étais en train de me dire, et le pétrole, et est-ce qu'on va devenir, nous? Et puis, alors, strictement rien...
Ça, tu l'expliques bien dans le papier.
Strictement rien à foutre des conséquences que ça va avoir sur nous. Hein. Les types, ils étaient en train de faire la chenille en se disant, ça y est, le régime est tombé. Je dis, mais où est-ce que le régime est tombé?
C'est le dernier grand régime dictatorial qui incarnait l'horreur des idéologies islamistes, totalitaires, barbares, pratiquant le terrorisme d'État, qui est en train de tomber, et comme tous ces grands empires reposant sur du néant, qui tombe en se faisant humilier en 24 heures.
Et sans aucune préoccupation de qu'est-ce qui se passe en énergie, qu'est-ce qui se passe sur plein de sujets, qu'est-ce qui se passe sur l'international, comment ils vont réagir, le terrorisme, tout ça, rien à foutre. Et c'est, moi, je pense que toutes les femmes iraniennes de Paris ont dû passer à la télé. Alors je comprends, mais je suis en apathie, parce que c'est ça qui joue. C'est-à-dire, ce sont des chaînes qui jouent sur le sentiment et qui ne sont plus sur le raisonnement, sur la compréhension. Alors c'est du sentiment, moi je ne suis pas rien. Quand je vois une Iranienne qui veut la liberté, j'ai envie de venir avec elle, je veux manifester avec toi. Mais sauf que c'est un peu plus compliqué que ça la vie. Là, on est informé par un boxeur iranien aussi sur une chaîne.
On est nombreux, les franco-iraniens, à vous le dire. On dit merci Trump, merci Netanyahou.
C'est-à-dire que le premier iranien qui passe, on lui demande son avis, on est informé. Non, c'est pas ça le métier. Il y a des chercheurs en France qui, justement, eux, vont voir le mannequin iranien, vont voir le boxeur iranien, mais vont aussi voir les fanatiques un peu chiites, essayent de comprendre, réfléchissent, lisent, vont là-bas, parlent la langue et nous informent en donnant leur vision. Mais non, maintenant, c'est de l'émotion. Alors, évidemment, on a de l'émotion, on se fait plaisir, on s'est construit le monde. Oui, demain matin, ils sont tous tombés, réservons. On nous explique qu'on va remplacer la République, toute islamique qu'elle soit, par maintenant une monarchie. Ah bon ? De l'ancien tortionnaire iranien. Ah bon ?
Tu penses au fils du chat ?
Bah oui, bien sûr que je passe profil Chad. Mais t'imagines, dans 20 ans, en Syrie, on te dit ouais, « Franchement, tout le monde attend le retour du fils de Bachar al-Assad. » Non, je pense pas, en fait. Non. Il y en a, oui, ça existe. Enfin, c'est pas forcément la majorité.
Mais il est fabriqué par les Israéliens.
Les types, ils passent son temps à Tel Aviv en disant, oui, c'est pour être avec les Iraniens, mais enfin, on est chez les, enfin, oui, je sais pas comment le dire. Enfin, c'est stupéfiant.
Chez les fous.
C'est ça, ce que tu veux. Bien sûr qu'on est.
Mais là, c'est là où tu parles. Il y a une irresponsabilité. Il y a une chaîne d'irresponsabilité qui est terrible.
Mais bien sûr. Mais quand évidemment, parce qu'en fait, c'est une trahison des lecteurs de faire. Quand tu allumes normalement une chaîne prétendument d'information, moi, je veux de l'information. Alors bon, évidemment, très rapidement, bon, j'ai regardé ça, j'ai dit, ok, c'est comme d'habitude, parce que c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle très bien, j'avais été choqué au moment de la guerre des 12 jours. J'avais vu 2-3 fois passer sur des chaînes d'information des gens qui étaient tranquillement en train de dire, ce qu'il faudrait quand même le tuer, Khamenei. J'ai aucun problème à ce qu'on juge Monsieur Khamenei pour tous les crimes qu'il a fait. Mais dire comme ça à Télébistro, tiens, si on tuait, mais vraiment comme si c'était, tu vois, un cafard, un truc comme ça, s'il n'y a pas de conséquences, j'étais en train de dire, mais on est devenu quoi? Ça passe à la télé, ça, sans problème.
Dis-moi, comment tu t'informes, toi? Quel est le contre-champ de tout ça? Qu'est-ce qui te nourrit comme
un petit peu la presse internationale, évidemment. Tu regardes un peu les réseaux sociaux parce que tu arrives à avoir des articles de grande presse. Parfois, un coup, c'est un article très intéressant dans un journal indien, parfois sur des journaux chinois, sur des journaux japonais qu'il faut traduire, mais tu as de l'info, parce que dire, l'information en Europe, c'est finito, mais on comprend qu'on est finito vu ce qui est en train de se passer et ce degré de fanatisme. Parce que on parle des médias, alors des médias audiovisuels, parfois je dis médias, excusez-moi, je pense vraiment à ce truc-là. Hein. Bon, j'allume la télé, je vois Netanyahou. On peut réfléchir à 2 secondes. Pourquoi il y a un criminel recherché par la Cour pénale internationale qui est sur ma télévision, en fait? Bon, je pose sérieusement la question. Comment c'est possible? Quand c'est pas lui, c'est le porte-parole de l'armée la plus génocidaire du Moyen-Orient qui vient tranquillement. Aucun problème. Puis quand c'est pas lui, c'est l'ambassadeur d'Israël qui passe à peu près toutes les 12 minutes sur un plateau télé.
D'où c'est normal. Ça, c'est en France, ça. Oui, ouais. C'est horrible. Ouais.
Non, mais... Mais tu vois, c'est horrible, on peut se dire, c'est horrible, mais ça construit cette
réalité. C'est d'une bêtise, manque de recul.
C'est ça qui construit le monde
imaginaire,
en fait. C'est ça qui le construit, ils sont là-dedans. Et regarde comment ça marche. T'as 50% du temps de parole, donc pour les génocidaires, là, ambassadeurs, machin. Mais attention, on est des professionnels du travail médiatique, comme tu dis très bien là-bas. 50% du temps, c'est pour l'Iran. Et là, j'ai tous les gens qui sont contre le gouvernement iranien. Hein, j'ai vraiment les mannequins, le machin, les associations, les trucs comme ça. T'as vu l'ambassadeur d'Iran, toi?
Non.
Alors moi, je l'ai vu parce que Sinkerview l'a invité. Mais alors, dans un média, c'est pas venu à lui. Alors, vraiment, hein, l'ambassadeur du pays génocidaire, il n'y a aucun problème. L'ambassadeur du pays agressé, on va quand même pas donner la parole à ce type-là. Waouh!
Ouais, j'avais vu que c'est l'interview, mais j'ai pas vu le.
C'est
intéressant, il dit quoi?
Ça en dit long. Il fait de sa propagande, il explique qu'ils sont pas contents, ils comprennent pas pourquoi ils se sont fait agresser alors qu'ils étaient en pleine négociation. Oui, ils sont un peu fous furieux, les types. Mais je répète, hein, si j'avais fait ça à ta famille, tu serais pas super heureux, il me semble. Bon. Quand tu es dans cette. Oui, non, mais c'est. Il faut bien voir ce qu'ils font en permanence. C'est-à-dire, je connaissais cette image. Je peux dire que ça y est, je l'ai vue, je l'ai comprise. Répéter 1000 fois un mensonge, ça devient une vérité. Et c'est ce qu'on a dit. Tu répètes ça. L'antifasciste, il est fasciste, blablabla. Et on est en démocratie, c'est nos démocraties. C'est-à-dire que notre président de la République, il a 12% de bonnes opinions, 80% des gens ont envie qu'il se barre, on nous dit on est en démocratie. Je jette ça comme ça, on va passer à autre chose. Ça permet quand même de faire réfléchir. C'est un monde aussi un petit peu imaginaire. Mais, 1000 fois, enfin, répéter 1000 fois le mensonge, ça en fait une vérité pour nous. Mais ça en fait pas la réalité. Et ce qu'on est en train de vivre, faut bien voir, hein. On était là, dans votre monde imaginaire, et on est en train de toucher le sol et d'atterrir et de se rendre compte que...
Mais je suis pas sûr, hein, si tu regardes, nous, là, on peut parler comme ça, mais...
Ça commence, mais ça commence. Et ça commence pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Alors, tu vois aussi, tu me demandais, finalement, le premier jour, rien à attendre des grands médias, dans une trahison de l'information classique. Et je regarde des choses qui sont hallucinantes. T'entends sur les grands médias, il y a une phrase qui m'a un peu frappé. C'était « Personne ne regrettera ces types-là ». En Europe, sans doute, mais pendant qu'ils étaient tous en train de dire cet élément de langage-là qui tournait en boucle, moi, je regardais, j'avais des dizaines de milliers de manifestants chiites très, très, très énervés dans toute la planète, dans tout l'Iran, dans le Pakistan, dans le nord de l'Inde, au Liban. Enfin, il se passait des trucs. T'entends des gens, personne ne pleura, tu vois des gens pleurer. Tu mets dans l'idée Alors que c'était vrai, personne en Europe l'a pleuré, peut-être, j'entends bien, hein, moi ça a été. Hein. Mais par contre, moi, mon mouchoir, je ne l'ai pas pleuré de larmes, mais je l'ai pleuré de sueur en me disant, oulala, qu'est-ce qui va se passer quand même sur ces trucs-là. Ces gens-là, ils ont l'air très 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 énervés. Oui, évidemment qu'ils étaient très énervés. Quand tu regardes tout ce qui fait partie de ce monde imaginaire, ça a poursuivi très vite. Premier tweet de l'armée israélienne, Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire que les types, ils agressent l'Iran, mais ils te disent, on se défend. Mais c'est ça, mais c'est un monde orwellien qui devient dangereux psychiquement. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on va mal collectivement. Il n'y a plus de respect pour la vérité, pour la réalité. En ce moment où je te parle, évidemment qu'on parle de tout ça. Juste 3 secondes. Hein. Trump est en train d'affamer Cuba. Il leur a coupé tout le pétrole. Ils n'ont plus d'électricité. Si quelqu'un peut s'occuper des femmes cubaines, ce serait intéressant, puisque a priori, on a l'air de s'occuper que des femmes iraniennes, qui, à mon avis, ne vont pas aller beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. Tu noteras que dans les éléments de propagande, on n'entend jamais de libérer la femme saoudienne ou la femme qatari, je ne sais pas pourquoi. Ce qui montre bien ces éléments de manipulation qui sont récurrents. On fait comme si c'est normal de foutre 700 000 Libanais hors de chez eux. Excusez-moi, hein, mais enfin, les Libanais, ce n'est pas des chèvres qui font des transhumances. Voilà, ce n'est pas normal qu'Israël envahisse le Liban. C'est pas normal que la Russie envahisse l'Ukraine. C'est très bien d'avoir combattu, c'est très bien d'avoir réagi. Pourquoi on réagit pas quand Israël vient d'envahir le Liban? C'est un monde imaginaire où envahir le Liban, c'est pas grave. Je te dis, les Libanais, c'est des moutons, on les fait passer, t'inquiète pas. 500 morts, t'inquiète pas, c'est pas grave ces gens-là.
Je vais te poser une question un peu triviale sur les médias, mais pourquoi, à ton avis, pourquoi il y a ce traitement médiatique? Pourquoi il y a ce côté panurge? Il y a pas de marionnettiste, il y a pas de...
Ah, il y a pas de marionnettiste, il y a pas de complot, mais il y a, je pense que ça va faire du travail pour des sociologues et des psychologues collectifs pendant très longtemps pour comprendre comment ça se passe. Moi, j'en sais rien, c'est pas mon métier, je fais pas de la psychologie, mais je l'observe, en fait. J'observe ces trucs. Enfin, il y a des faits qui semblent élémentaires, que personne ne semble voir. Je répète, voir Netanyahou à la télé, qui est un criminel recherché, c'est pas normal. Ouais. Quand les Allemands disent on le soutient alors qu'ils ont signé la charte de la Cour pénale internationale, c'est pas normal. Quand tu regardes cette évolution permanente de ce qui s'est passé, de cet enchaînement, Trump qui dit qu'il va prendre le Groenland, mais normal, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on rediscute ensemble comme si c'est normal. Le type qui dit je vais prendre le Canada, c'est normal, il n'y a pas de problème. Il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé dans les années 30, ce qu'on nous a appris à l'école sur... Enfin, vous voyez bien qu'il fallait les arrêter plus tôt, là, l'Allemagne, ça aurait été facile. J'ai toujours trouvé, parce que j'aime beaucoup l'histoire, que c'était un peu facile de dire ça quand tu connaissais toute la fin de l'histoire, que tu avais un gros morceau contre l'Allemagne, comme l'Allemagne à l'époque, et que tu avais eu la Première Guerre mondiale avec tous les morts dans toutes les familles de France juste avant. Pas facile d'arrêter quand tu connais pas ça. Enfin, ne pas pouvoir arrêter un État de 10 millions d'habitants qui est en train de violer de plus en plus le droit international, c'est quand même stupéfiant qu'on soit pas arrêté. BHL, quand il va, il traite tout le monde de Munichois. Enfin, les Munichois, ça a vraiment été nous face à Israël. Hein. Et c'est ce qui restera dans l'histoire, puisqu'on voit très bien ce qu'ils ont fini par déclencher quand on va... Parce que ça commence pas là, ça commence pas à Gaza, ça commence mais depuis des décennies dans ce qu'ils font dans les territoires palestiniens. Et je vais juste dire ça pour conclure, on va parler d'autre chose. Mais ce monde imaginaire, on voit à quel point il est dangereux. Il a l'air vachement confortable parce que c'est un mode sympa. C'est un mode où on va changer le pouvoir en Iran pour mettre des gens qu'on aime bien, ou chez nous, on va être une démocratie, tout va très bien, ou des extrêmes, on va jamais leur donner le pouvoir quand même, faut pas exagérer.
On va faire une cité balnéaire à Gaza.
Mais tu t'imagines, les types, ils font un génocide et ils vont faire Auschwitz-Plage après. Et tout le monde dit, ah ouais, quand même. Et ils mettent Tony Blair, le mec qui a tué 1 million d'Irakiens. Mais c'est stupéfiant. Comment on explique ça à un historien dans 20 ans? Le mec va dire, mais vous aviez des gros problèmes quand même. Vous n'aviez pas bien dans votre tête sur ce truc-là. Et dans ce monde imaginaire, dans ces médias-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de l'intimidation permanente. C'est des gens, ils te disent, tu vois, cette table, elle n'est pas blanche. Si tu dis qu'elle est blanche, oh, t'es antisémite, t'es méchant, tu soutiens le régime islamiste, tu veux que les gens y meurent. Mais je veux dire, il faut tenir une ligne. La table, elle est blanche. Elle n'est pas noire. Elle n'est même pas grise, elle n'est même pas un peu grise. Et c'est ça, c'est cette intimidation permanente qui font que plus personne... Parce que ce que je raconte là, enfin, on peut être contre, j'ai pas de souci. Enfin, ça fait partie d'un débat démocratique normal. Hein. En particulier quand je dis qu'il faudrait s'occuper des conséquences sur les Français plutôt que rêver de changer la vie des Iraniennes alors qu'on ne va pas y arriver. On a très bien vu en Irak qu'on n'y est pas arrivé, qu'en Libye qu'on n'est pas arrivé, qu'en Syrie on n'est pas arrivé. Dire ça, ça devrait pouvoir être entendu. C'est inaudible, tu te fais agresser, on te demande de baisser les yeux. On demande à des antifascistes de baisser les yeux Et qui te demande ça? Des gens d'extrême droite. Mais faut pas étonner que la guerre soit en train de revenir et nous frapper très fortement. Donc le message, la table, elle est blanche et elle est blanche. Peu importe. Si t'as des amis, quand tu dis qu'elle est blanche, ils sont pas contents, ils te disent machin, change d'amis, la table, elle est blanche. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est que tous ces gens qui s'imaginaient que la table, elle était noire, et ben, petit à petit, ils se disent, ils se rapprochent. Ah, mais non, elle est grise. Ah, là, enfin, ah non, ah, elle est blanche, en fait. C'est pour ça qu'ils vont pas bien dans les médias, ils vont aller de moins en moins bien. Parce que quand on va voir ce qu'ils ont vraiment déclenché, ce que Israël et les États-Unis ont déclenché par pure folie, il y avait aucun danger, il y avait aucun problème.
La folie, c'est une explication rapide. Israël.
Non, mais pardon, excuse-moi, c'est pas, j'aime pas, excuse-moi, c'est.
Non, mais justement,
par pur comportement sans réfléchir aux conséquences.
D'accord, mais justement, je voudrais qu'on s'arrête un peu là sur ce que tu viens de dire sur l'emportement, etc. Que Israël et Netanyahou, les suprémacistes, Ben Gvir et compagnie, et un projet messianique de grand Israël, etc. Oui. En tout cas, pour nous, qui sommes un peu informés, ça semble acquis, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller attaquer l'Iran, et c'est le projet de Netanyahou depuis 30 ou 40 ans, du Likoud, etc.
Oui,
mais les États-Unis, tu dis, ils ont fait ça sans raison, c'est un coup de folie, c'est Trump, etc.
Enlevons le mot folie là-dedans, excusez-moi.
Je pourrais dire la même chose, c'est pas ça, mais au fond, pourquoi les Américains font ça, pourquoi ils l'acceptent et pourquoi ils ont cette dépendance, ça c'est la question qui tue, mais avec Israël.
Mais ça, tu sais, ça va faire l'objet d'enquêtes parlementaires et à mon avis de jugements de tribunaux qui vont être très intéressants de comprendre pourquoi ça s'est passé. On sait très bien que ça fait 40 ans.
Sauf si Trump reste au pouvoir.
Hein. On va voir.
Hein ?
On va voir.
Non, mais là, c'est chaud pour lui, tu crois ?
On va voir. Oh, mais j'en sais rien. Enfin, tout est possible, en fait, dans ce monde. Tu sais, moi quand il a déclenché... Enfin, à un moment donné, il faut encore avoir quelques yeux pour voir. Il me semble qu'il a déclenché une guerre, quand même. Il me semble que la Constitution américaine, elle dit que pour déclencher la guerre, il faut l'accord, quand même, du Congrès américain, pas de la Knesset. Donc, je me suis dit, bah tiens, au bout de deux jours, quand même, j'espère que les parlementaires vont lui tomber dessus en disant, oh, faut qu'on reprenne la main. Je crois qu'il y a eu zéro républicain, sénateur républicain qui ont voté contre le truc. Ils n'ont pas repris la main, ils laissent Trump faire. Alors que tu vois très bien que les types, ils sont vraiment pas bien dans la tête. Ils t'expliquent qu'il y a des objectifs qui changent tous les jours. Alors au début, on va changer le régime. Alors au début, c'était nucléaire. Puis non, on va changer le régime. Et puis, ah bah non, finalement, c'est les balistiques quand même. Puis finalement, là, non, on veut qu'ils aient moins de missiles. Bah là, ils ont moins de missiles, ils les balancent sur nous. Hein. Puis après, c'est faut attaquer leur marine. En gros, faut plus qu'ils aient plus d'armée. Et puis, il faut plus qu'ils attaquent les gens au Moyen-Orient. Enfin, les types sont perdus. Tu as, je l'ai mis d'ailleurs dans mon article, Elizabeth Warren, qui est quand même une grande sénatrice démocrate
oui.
Qui a fait un petit message, comme un petit briefing des États-Unis. Elle m'a dit, je viens d'avoir le briefing du gouvernement. Alors bon, c'est confidentiel, je ne peux pas tout vous dire. Bon, je suis rentré, j'étais inquiète, je suis sorti, je suis très inquiète.
Ouais.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y avait pas de danger. Les agences américaines ont dit, il n'y a pas de danger iranien. Ils ont dit, non, a priori, ils ne sont pas en train de faire une bombe. Ils ont du combustible qu'ils gardent pour des négos, mais pour le moment, ils ne font pas de bombe. Il n'y a pas de raison.
Mais ça, c'était quand? C'est récent.
Oui, c'est 2025, c'est le rapport le rapport parlementaire américain qui disait qui
non, mais là, Warren. Ça.
Pardon. Ah oui, non mais Warren, c'était la semaine dernière. Vous l'avez sur l'article que tu as cité, il est en libre accès, hein, donc allez le voir. Mettez le lien puisque tu en as parlé sur le site, ça aidera dans YouTube.
On mettra le lien en description.
Mais c'est ça. Enfin, on a.
Mais tu réponds pas à ma question. Pardon. Au-delà de l'emportement et de la folie, c'est pas. C'est quand même pas. Ok, il est seul. Il est un peu. Il fait un peu. Mais il y a quoi derrière? Il y a quand même un appareil politico-militaire. Il y a les religieux et il y a le parti républicain. Il y a les mid-terms qui arrivent bientôt. Donc
il y a une faillite totale. Tu vois très bien qui pousse à ça. Des gens incompétents, des gens inconséquents, des gens qui ne réfléchissent pas. Mais je répète aussi. C'est pour ça que j'ai un peu assisté dans cette émission des gens qui vivent dans une réalité alternative, dans ce monde imaginaire. Bon, allez, on va se venger des Iraniens de 79, on enlève la tête de tout le monde, et puis ça va bien se passer. Il va y avoir de nouveau un État à notre botte au Moyen-Orient qui fera tout ce qu'Israël a envie de faire, et puis qui ne sera plus un danger. Je veux dire, il ne sera plus un danger, je veux dire, regarde ce qu'ils ont fait. On sait très bien qu'Israël a beaucoup poussé. Marco Rubio a dit, de toute façon, on a dû y aller, nous, Américains, parce que les Israéliens nous ont dit qu'ils y allaient. Et que si Israël y allait tout seul, les Iraniens, ils se seraient vengés aussi sur les Américains. Et Rubio a dit, c'est pour ça qu'on y allait. Mais ça a toujours été un chantage des Israéliens, de dire, si vous nous aidez pas, on va y aller tout seul et vous aurez les problèmes, donc venez avec nous. Et à chaque fois, les Américains ont cédé. Mais ça s'est passé très, très, très longtemps. Moi, j'ai discuté avec le journaliste.
Il peut tenir, Trump, cette ligne-là, vu que la guerre dure. Comment il...
Ah bah ça va être très compliqué.
Ça me semble, non?
Bah après, si tu veux, c'est beaucoup de choses sont ouvertes. Enfin, il est évident que là, le type devrait avoir un impeachment et être viré direct, en fait, si tu avais encore un tant soit peu de démocratie là-bas. Bon, après, tu me diras, le vice-président, il n'est pas beaucoup mieux que monsieur Trump. Mais ils ont des gros problèmes. Enfin, Trump a fait une interview il y a 2 jours. C'est complètement sidé. Enfin, une conférence de presse, c'était à se rouler par terre. Hein. Le type dit n'importe quoi. Le type, pour libérer la femme, le premier truc qu'ils ont fait le premier jour, ils ont tué 160 écolières iraniennes. Alors évidemment, hein, ça fait tout le tour, hein, les 160 tombes, là, t'inquiète pas que, déjà, tout l'Iran l'a vu, t'as bien soudé le peuple iranien derrière son gouvernement, même s'il n'aime pas dans ces conditions-là, ce qu'ils aiment encore moins quand on leur tue 160 petites filles. Le monde entier était horrifié. Tué par un tomahawk, en plus, maintenant, ça a même été filmé, on le voit tomber, le tomahawk. Quelqu'un lui demande à Trump, il répond, vous savez, des tomahawks, on en a vendu à plein de pays, ça se trouve, c'est pas nous. Ils ont vendu ça à 3 pays, en fait. Mais en fait, on voit que dans ce genre de truc, ils cherchent même pas à convaincre, ils s'en foutent, en fait. Ça, tu vois ça.
Mais on sait si c'est les Israéliens ou les Américains.
C'est les Américains, a priori. Ouais. A priori, c'est les Américains. En plus, ils ont été assez bêtes, si tu veux.
Parce qu'ils visaient, l'école était juste à côté.
Oui, bah, ils se sont trompés. Oui, ils n'ont pas visé exprès l'école, mais enfin, bon, voilà, les morts sont là. A priori, ils n'avaient pas les cartes à jour. Il y a même, j'ai vu passer quelques articles, on se demande si c'est pas à cause de l'IA, parce qu'ils ont demandé à l'IA de choisir les cibles, en fait. Une intelligence artificielle de choisir les cibles. Donc, ils se disent, tiens, est-ce que l'IA s'est pas trompé? Pareil, il y aura à la fin une enquête qui sera intéressante pour montrer le degré, quand même, de sérieux de tous ces gens barbares, en fait, qui n'ont rien à foutre. C'est pas grave. C'est des Iraniens, c'est pas des êtres humains, en fait, tu vois, c'est pas...
Et quel est l'intérêt stratégique américain ou économique de cette guerre? C'est récupérer le pétrole iranien? C'est parce que là, ils déstabilisent tout?
Mais en plus, tu sais, il y a quelque chose quand même, ça, qu'on peut reconnaître aux républicains, et je suis pas du tout ironique ici, c'est qu'ils sont beaucoup plus francs que les démocrates. Parce que les démocrates, ils font pareil, mais c'est un peu robé, tu sais, c'est les femmes, ce qu'on a chez nous, en fait, tu sais, tous les BHL, les choses comme ça. Et là, les républicains se disent, on y va pour faire de l'argent, puis on va piquer le pétrole, en fait.
We're going to make a ton of money. Nobody will threaten the Straits of Hormuz again.
Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'idées, en fait, là derrière. Des gens, ils ne sont pas très, très bien dans leur tête. Je pense qu'ils sont perdus, en fait. Comment ils ont été aveuglés? Alors que, quand même, la plupart des services de renseignement leur ont dit, faites pas ça. Hein. Parce que ça fait 40, 50 ans qu'ils pensent à faire la guerre à l'Iran. À chaque fois, les types leur ont dit, faites pas ça, hein. ils vont détruire les Trois d'Hormuz, ils vont bombarder tous les pays à côté, toutes les installations pétrolières, ça va très très mal se finir. Qu'est-ce que vous voulez aller faire, une guerre à l'autre bout de la planète, sur un territoire aussi peuplé, qui s'y prépare depuis longtemps, avec des gens qui sont un petit peu fanatisés?
Ton explication, elle est quand même assez flippante, quoi. Moi, je sais pas.
Mais c'est pas, après, j'ai pas l'explication.
Il va y avoir des enquêtes. Mais après, donc il y a des élections là à mi-mandat, il y a quand même un parti démocrate, il y a un Sénat, est-ce qu'il y a des freins institutionnels aux États-Unis qui peuvent ralentir Trump aujourd'hui, après cette dinguerie là qu'il est en train de faire?
Il y a 3-4 jours, ils ont dit, bon, maintenant on va attaquer Cuba. C'est pas un sujet, ça?
Bah, ils sont déjà en train de les museler, de les affamer.
On est tranquillement en train de dire, alors qu'ils sont en train de les faire creuser. Parce que c'est ce qu'ils font, les Américains. Il faut bien le voir. Ils aiment bien faire des sanctions comme ça, hein, qui sont très discutées en droit international, suivant comment elles sont, parfois pas illégales, parfois très limites, pour abîmer les pays. C'est-à-dire que, hop, t'abîmes le Venezuela avec tes sanctions pendant un moment. Puis après, tu vas dire au bout de 15 ans, vous voyez, c'est pas terrible le Venezuela, hein, il faut changer de... Bah oui, bah c'est sûr qu'avec les sanctions, c'est pas terrible. Après, ils t'abîment là à Cuba. Depuis tous les ans, à l'ONU, ils sont condamnés pour le... Attends, laisse-moi finir de petites secondes. Ils sont condamnés pour Cuba, pour ces trucs-là. T'as eu une étude dans The Lancet, me semble, c'est l'année dernière. Depuis 1970, les sanctions américaines, ça a tué 38 millions de personnes dans leur estimation.
Les sanctions américaines...
Partout, sur la planète, ils regardent. C'est 500
millions par an. Qui a fait cette étude?
C'est dans The Lancet, tu regarderas. Tout le monde s'en fout, tu vois. Parce que nous, c'est la démocratie, tu vois. Ah ouais, demande à Cuba si c'est la démocratie, demande à l'Irak si c'est la démocratie chez nous, demande si on nous aime bien, si on est vu comme des gens respectables et honorables. C'est ça que ça fait les sanctions. Et après, une fois que tu attaques les pays, tu dis, et c'est ce qu'ils ont fait en Iran, tu dis ça marche mal. Mais là, je voudrais dire un petit mot. On a fait ces sanctions contre l'Iran. On essaye de te faire passer l'Iran. Alors je répète, je vais pas dire que l'Iran, c'est l'optimum qu'on ait.
Non, c'est bon.
D'accord, c'est pas l'Afghanistan, l'Iran. Hein. C'est pas l'Afghanistan, même pour les femmes là-bas. Hein, il y a beaucoup de femmes qui sont éduquées, il y a beaucoup de femmes docteurs, il y a beaucoup de femmes. C'est pas l'Afghanistan du tout. Il y a plein de femmes ingénieures. Les missiles, il y a plein de missiles qui ont été faits par des femmes, hein, qui sont en train de tomber. Quand tu regardes, Emmanuel Todd, d'ailleurs, je l'avais parlé avec lui dans une émission que j'avais fait, a noté que le taux de natalité en Iran, il est de 1,7 enfants par femme. C'est-à-dire qu'il est comme chez nous. Ça veut pas dire que l'Iranienne est traitée comme une Française. Ça veut dire une chose, hein, c'est que c'est pas un truc moyenâgeux. C'est-à-dire que la femme est en train de se libérer, ça a beaucoup baissé. Autrement dit, si au lieu d'avoir puni l'Iran en faisant des sanctions, on l'avait aidé par du commerce, en le traitant normalement le pays, même si c'était un régime comme ça théocratique, tu as une très forte probabilité, j'en parlais avec Thierry Coville aussi, que le régime, il ait évolué vers le bien. Il y a des gens qui commençaient à dire, on n'en veut plus de ce régime de Mollah, on veut bien garder une religion, parce que c'est important pour nous, mais on veut une loi de 1905, on veut séparer l'Église et l'État, on veut une république iranienne qui sera... Mais je veux dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de briser un mouvement qui aurait pu conduire à un Iran démocratique, exactement comme on a fait en 1953. On ne rappelle pas qu'on est déjà allé foutre le bordel en 1953, qu'on a détruit une démocratie naissante en Iran pour nos petits intérêts de business, de pétrole iranien. C'est ça qu'on a brisé en Iran. Il faut bien se rendre compte.
Je voudrais te parler de Macron et de l'Europe, mais avant, j'ai une petite question sur la Russie et la Chine. Comment, quelle info tu as là-dessus? Enfin, comment ils peuvent pas rester sans bouger? Déjà là, on dit que les Iraniens sont informés par les satellites russes, que les Chinois s'en mêlent aussi.
On parle beaucoup des Chinois. A priori, les Russes ont dit oh, bon, non.
T'as pas d'infos par qui?
Promis sur les trucs. Oh, je suis pas dans le secret des dieux. Enfin, on a vu passer des articles qui ont l'air de dire que les Chinois passent des infos, que les Russes passent des infos. Mais on sait, les Russes ont dit aux Américains que c'était pas vrai, mais je ne pense pas qu'ils leur disent la vérité non plus, puisqu'évidemment, les Américains passent des infos aux Ukrainiens pour viser les Russes.
Mais on peut considérer que, vu l'ampleur que ça prend, vu l'espèce de chaos qui est là-bas, que la Chine et la Russie ont un soutien de plus en plus actif à l'Iran. C'est leur intérêt.
Bah après, ils vont être tiraillés en deux choses. C'est qu'évidemment, ce qu'est en train de faire l'Iran, parce que c'est ça, après, maintenant, on a beaucoup parlé du sujet, mais parlons concret. Que fait l'Iran? Bah, l'Iran, comme tout pays, qui est gouverné par des gens qui ont des stratégies, c'est-à-dire pas comme en Occident, hein, parce que nous, en Occident, c'est vraiment, tu vois, les sous-doués dirigent. Bon, là-bas, ils sont criminels, machin, mais ils ont quand même des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont analysé toutes les défaites américaines du Vietnam, parce qu'à leur frontière, l'Iran, ils regardent à gauche, il y a l'Afghanistan, où les Américains, ils sont partis en courant, ils regardent à droite, il y a l'Irak, où les Américains, ils sont partis en courant. Donc c'est sûr qu'ils se sentaient un peu visés, c'est sûr qu'ils ont réfléchi. Et en tout cas, les gardiens de la Révolution ont beaucoup étudié les échecs américains pour en tirer des conséquences et une stratégie, en fait, sur ce qui se passe. Donc, la stratégie, c'est déjà d'utiliser les armes que tu as. Donc, ils savent très bien que, ils n'ont pas beaucoup de moyens antiaériens qui vont se prendre des bombes. Et là, actuellement, tu as les Américains, d'ailleurs encore aujourd'hui, qui arrivent en disant « Oui, regardez, ça y est, on bombarde. C'est le plus dur jour de bombardement depuis le début de la guerre. » Hop. Et puis, je crois qu'ils disent « On a lancé 5000 bombes sur l'Iran. » Bon, OK, ils s'y attendent. Ils ont planqué sous terre les choses les plus importantes. Alors, je rappelle, ils te disent « On a lancé 5000 bombes sur l'Iran. » Bon, l'Iran, c'est trois fois la France. Autrement dit, ils ont lancé 20 bombes par département pour chuter chez nous. Ça ne va pas détruire le pays tout de suite quand même, hein. Il y a une petite marge. Il y a d'ailleurs un officiel iranien qui est un peu... J'ai vu une déclaration qui était un peu rigolote, parce que hélas, elle n'est pas si fausse. Le gars disait, mais vous savez, c'est bien d'avoir beaucoup de muscles, hein, mais le problème, c'est que ça laisse moins de place au cerveau. Et c'est exactement ça, c'est ça les Américains. Il y a dans l'édito du Monde du jour, qui commence un petit peu à tourner Kazakh en se disant... Peut-être qu'Israël, c'est pas terrible de faire la guerre tout le temps. Dedans, il te dit, non, vous inquiétez pas, ça va bien se terminer, parce que ouais, vu la puissance américaine, ils peuvent bombarder tant qu'ils veulent. Bon, alors, c'est ce qu'ont dit tous les présidents au Vietnam. Puis les petits mecs dans les rizières, ils ont quand même fait des carapires, les Américains, ils n'avaient pas de missiles à l'époque. Je rappelle que le Vietnam, il y a 500 000 soldats américains qui vont combattre 1 million de Vietcong. Il y a aussi 1 million de soldats du Sud-Vietnam. Donc les Américains, quand tu as envoyé un Américain, t'avais 2 Vietnamiens avec toi, vous étiez 3 contre 2 du Nord, t'avais tous les avions et ils ont perdu quand même. Ouais. Et là, ils n'ont rien. Il y a des débats qui me font sourire, des gros débats aux Américains, c'est est-ce qu'on envoie des troupes au sol? Ça va être le débat maintenant, hein. C'est ils se barrent ou ils envoient des troupes un peu. Moi, je me dis, ouais, quel sol? Parce que les pays frontaliers de l'Iran, là... Afghanistan, pas trop. Pakistan, je pense pas. Azerbaïdjan, pas sûr qu'ils acceptent. Parce qu'évidemment, le premier pays qui dit éventuellement « j'accepte des soldats américains », dès que t'en as 5000, tu vas avoir une pluie de bombes sur toi. Et puis je pense que l'armée iranienne, qui est quand même pas petite, va débarquer dans ton pays. Parce qu'évidemment, tu auras une guerre préventive de l'Iran pour empêcher de se faire attaquer. Donc déjà, je vois même pas trop comment c'est possible. C'est ça la folie. Là, t'as pas un Sud-Vietnam que tu vas aller aider contre le Nord. Là, t'as rien en fait. T'as que des États hostiles, et de plus en plus hostiles aux États-Unis. Parce que évidemment. Je rappelle que tous les pays du Golfe, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils ont des accords avec les États-Unis pour être protégés.
Non, mais ils ont...
Vas-y, c'est super important. C'est un changement majeur. Les types, ils ont payé le garde du corps. Tout d'un coup, tu vois, le garde du corps est allé taper des gens et t'as les gens en face qui te tirent dessus. C'est-à-dire que ton garde du corps t'attire la foudre. C'est gênant. Moi, j'ai pas payé le garde du corps pour ça. C'était pour me protéger. C'était pas pour m'attirer des missiles iraniens. Ils ont construit des bases. Les bases, elles sont toutes maintenant quasiment détruites. Les Américains, dès que ça bombardait, ils sont allés se planquer en ville. Évidemment, les Iraniens sont allés bombarder les villes après, ce qui n'est pas conforme au droit international. Enfin bon, hein, on en est pas. Non, tu peux pas dire un jour, le droit international, j'en ai rien à foutre. Et puis du jour, quand même, les gars, quand on vous attaque, répondez pas trop. Ça marche pas comme ça, la vie. C'est pour ça qu'il faut des règles, qu'on les respecte. Et donc, ils sont allés se planquer. Donc, les Saoudiens se disent, mais en fait, on est en train de nous protéger le garde du corps. Et puis, ils sont en train de se barrer, les Américains, là. Et ils se rendent compte que tous les missiles qui étaient censés protéger, ils en ont pas beaucoup. Et puis qu'au bout de 3 jours de guerre, oh là, il y a plus, presque plus de missiles. Et puis dès qu'il y a 7 morts, je crois qu'ils étaient à 7 morts, ils sont barrés quand même. Ils évacuent l'ambassade d'Arabie Saoudite. C'est pas le garde du corps du mec. Ça va poser des grosses conséquences, hein. Je veux dire que les pays du Golfe vont dire, mais je veux plus de ces gens-là, qui sont des rigolos. Mais vois bien, hein. Là, tu es en train d'assister à la destruction de toute l'image que peuvent envoyer les États-Unis. S'il reste quoi sur l'OTAN derrière comme conséquence? Non, parce que si t'as pas pu défendre Bahreïn et le truc, à mon avis, hein, tu vas pas défendre l'Allemagne, hein. Tu vois très bien ce qui va se passer derrière. Tu vas voir une recomposition géopolitique qui va être sacrément mitonnée derrière.
C'est-à-dire, parce que là, je voudrais qu'on en arrive à l'Europe et à la France.
Bien sûr.
Comment? Parce que là, il y a une, à part l'Espagne,
Il y a un pays courageux en Europe. Tu vois, ça y est, on a fait un sondage. Bah, sur 27, c'est pas beaucoup, hein, en termes de. Enfin, c'est les proportions de résistants en France aussi, tu vois. C'est pas pour rien sur 27, quoi. Faut compter là-dessus.
Bah, l'Espagne, Pedro Sanchez dit que, il est en désaccord. Enfin, il. Mais ceci dit, à part dire ça, il se fait allumer par Trump, d'ailleurs, mais bon.
Oui, il se fait. Trump a menacé de les sanctionner.
Oui.
Merci à Denis Robert de Blast et Olivier Berruyer d'Elucide. À bientôt pour un nouveau replay. Mmh.